Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonne fête de l'Assomption. J'espère que vous allez bien. Je salue aussi les vacanciers qui sont parmi nous. Aujourd'hui, c'est la solennité de l'Assomption. Et en première lecture, nous écoutons l'Apocalypse de saint Jean. L'Apocalypse est un texte écrit et adressé aux chrétiens persécutés. Voilà pourquoi le texte est codifié. Il faut donc le décrypter pour pouvoir le comprendre. Ainsi, dans la vision de la femme et du dragon, se cache le combat entre le bien et le mal. Le mal est représenté par le dragon rouge feu. Et on nous parle de l'arche du Seigneur qui apparaît dans le temple. Si l'arche du Seigneur apparaît dans le temple pendant ou avec l'Apocalypse, cela veut dire que l'arche a disparu. Et l'arche a disparu quand ? Pendant l'exil à Babylone. Et à partir de là, le peuple juif s'est dit ceci. Quand nous allons retrouver l'arche du Seigneur, ça va être la venue du Messie. Et là, le peuple s'est trompé, car à la venue du Seigneur, nous n'avons pas eu l'arche de l'Alliance. Il faut attendre la fin des temps. C'est ce que nous dit la deuxième lecture, quand le Christ reviendra pour parachever toute chose, pour refaire toute chose neuve, pour rétablir toute chose dans l'amour de Dieu. On nous parle d'une femme ayant le soleil pour manteau. Elle est enceinte et elle gémit des douleurs de son enfantement. Les relations entre Yahvé et son peuple sont présentées sous la forme d'une relation ou d'une tendance sponsale. Sponsale signifie des époux. Et ici, il y a une femme qui est enceinte et un homme, une femme et un homme, et non pas deux femmes, et non pas deux hommes. Yahvé n'a pas fait cela. Il aurait pu le faire, il aurait dû le faire peut-être, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi une femme et un homme. La femme représente tout le peuple. Et ça, c'est très présent dans l'Ancien Testament. En Osée 2, par exemple, je te fiancerai avec moi. C'est Yahvé qui parle. En Isaïe 66, on écoute ce test pendant le temps de l'Avent. La venue du Messie est présentée comme une sorte d'enfantement, car c'est d'Israël que va naître le Messie. 3. Dans le psaume 2, il est dit ceci. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ce qui veut dire que nous venons de Dieu, nous avons été créés par lui et que nous sommes faits pour lui. Alors, on nous parle aussi de l'image de l'enlèvement de l'enfant auprès de Dieu et de son trône. Et cela signifie la résurrection du Sauveur, celui qui vient nous donner le salut. D'ailleurs, cet enfant est présenté comme étant le premier-né. Et dans la tête des chrétiens du premier siècle, quand on parle du premier-né, on pense au Christ Jésus. Mais qu'est-ce que ce Christ Jésus est venu faire? Il est venu rétablir, corriger ce que Adam a mal fait. C'est le résumé de la deuxième lecture. Et donc, Paul, dans la deuxième lecture, nous peint un tableau, celui du Christ et celui d'Adam. Mais avant, permettez-moi de problématiser cela, de poser une question qui va nous permettre de mieux comprendre cela. Et la question, la voici. Qu'est-ce qui est commun au Christ et à Marie et que n'aurait pas Adam? La réponse se trouve dans le test. Le tableau du Christ et de Marie. 1. Le Christ a cru en Dieu. Marie a cru en Dieu. La foi, c'est donc croire à l'accomplissement des promesses que le Seigneur a eu à faire. Cette foi en Dieu nous engage à l'obéissance. Obéissance au commandement de Dieu, obéissance à l'Église. La foi, c'est aussi embrasser l'arbre de vie. Le Christ a embrassé la croix et il est mort sur la croix pour nous donner le salut. Et au pied de la croix se retrouvaient Marie et le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Le tableau de Adam maintenant. Adam a refusé la soumission au commandement de Dieu. Adam a douté. Adam a tourné dos à l'arbre de vie. Voilà pourquoi en Adam, c'est en Adam que tous les hommes meurent. Et voilà pourquoi aussi, c'est en Jésus que tous nous avons la vie. L'évangile d'aujourd'hui, quant à lui, nous dit ceci au sujet d'Élisabeth. Enfin, c'est ce qui m'a le plus marqué. Élisabeth a salué Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Vous voyez, Élisabeth a dit du bien de Marie. Et puis, la réponse de Marie, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. C'est le Magnificat que nous connaissons tous. Et de cette prière du Magnificat, je retiens deux leçons. La première, c'est la leçon d'humilité de Marie. Si on connaît bien l'Ancien Testament, on verrait que cette prière n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, elle nous fait comprendre que Marie est complètement soumise à la volonté de Dieu, qu'elle connaît l'Ancien Testament, l'histoire du peuple de Dieu avec Dieu lui-même, et qu'elle n'a pas cherché à fabriquer une prière nouvelle pour elle. Elle a accueilli ce qui existe déjà. Si nous pouvions faire un peu comme ça, plutôt que parfois de saucissonner la parole de Dieu, plutôt que parfois de critiquer à l'infini un tel ou un tel, ça vaut, ce que je dis, vaut pour vous comme pour moi. Ce serait peut-être bien. Deuxième leçon, c'est le sens communautaire de Marie. Marie ne prie pas pour elle-même, elle ne prie pas pour sa gloire. Elle prie et elle implique tout le peuple avec elle en direction du Christ Jésus. Voilà pourquoi je retiens quatre grands thèmes de la prière biblique à partir du Magnificat. 1. La joie de la foi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Ce qui signifie que le chrétien doit être un homme heureux. Le chrétien ne doit pas être seul. Autrefois, on disait qu'un chrétien triste ou un saint triste, un chrétien triste devient un saint triste et que ce n'est pas bien. Il nous faut être heureux. On peut retenir cela du pape François, par exemple, la joie de l'évangile. Le chrétien doit être heureux. Heureux de sa situation de chrétien. J'ai écouté dans les informations tout à l'heure, on dit que C8 propose des films trop catholiques et les gens se sont mis à râler. On n'est pas libre d'être catholique dans ce pays. Bon, je ne fais pas de polémique aujourd'hui. 2. La fidélité de Dieu à ses promesses. Il se souvient de son amour. Dieu reste constant dans l'alliance. C'est nous qui allons et qui revenons. Mais lui, il est constant et il nous accueille chaque fois que nous revenons à lui. 3. L'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. On rend grâce, Marie rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour le peuple et non pas seulement pour elle seulement. Le pape François dit ça autrement, dire merci, pardon, s'il te plaît, un truc comme ça. Bon, il dit avec les mots d'aujourd'hui, bon. Voilà ce que dit la Vierge Marie. 4. La prédilection de Dieu pour les pauvres. Il s'est penché sur son humble servante. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que nous fêtons, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie un 15 août, alors que le dogme de l'Assomption a été signé un 1er novembre 1950. Pourquoi ce décalage de date? Le pape aurait pu attendre et signer ce décret un 15 août. Ou alors, est-ce que le dogme, c'est après la signature du dogme le 1er novembre que nous avons commencé à célébrer l'Assomption à partir du 15 août? La réponse, je l'ai cherchée dans l'histoire et voici ce que je nous propose. Au 7e siècle, dans l'église d'Orient, il y avait un empereur byzantin qui s'appelle Maurice. Maurice a décidé de consacrer le 15 août, c'est d'ailleurs lui qui a fixé la date, pour la fête de la Dormition de Marie. Tenez-vous bien, nous cathos, nous occidentaux, nous parlons de l'Assomption, mais nos amis orthodoxes parlent de la Dormition de Marie. Et donc, Maurice, au 7e siècle, a décrété que le 15 août va être consacré à la Dormition de Marie. Il a fallu un peu plus de 100 ans pour que nous, l'Église occidentale d'aujourd'hui, au 7e siècle, avec le pape Théodore, nous puissions nous mettre à célébrer Marie sous son titre, sous son nom de Notre-Dame de l'Assomption. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1638, Le roi, si vous voulez, Louis XIII, a consacré la France à la Vierge Marie, après avoir demandé à avoir un fils. Et ce fils va être Louis XIV. Vous savez tous l'histoire mieux que moi, mais ce qui m'intéresse, c'est ceci. Louis XIII a demandé que les couples qui sont en recherche d'enfants, que les couples qui sont en difficulté, puissent prier la Vierge Marie le 15 août. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus, mais voilà. Et puis, en 1854, nous avons eu le dogme de l'Immaculée Conception et le 1er novembre 1950, le dogme de l'Assomption. Je me permets de nous dire ce que le pape a dit le jour-là. Pie XII, il dit ceci. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons, définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé sa vie terrestre, fut élevée corps et âme au ciel. Voilà ce qui a été dit. Alors, si cela a été, le dogme a été signé un 1er novembre, ce n'est pas seulement que la Vierge est montée corps et âme au ciel pour elle, mais qu'avec sa montée au ciel, en parallèle avec l'ascension, nous tous, nous sommes appelés à monter avec elle ou avec le Christ au ciel. C'est donc la fête de notre immortalité que nous célébrons aujourd'hui. Que demander durant cette Eucharistie ? Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, de nous accueillir un jour dans son royaume. Demandons à la Vierge Marie de nous conduire vers son Fils Jésus. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Nous sommes à vous, et nous en sauverez.